L'actualité francophone avec RFI, la radio-télévision suisse, la RTBF et Radio-Canada et bien sûr France Inter. Au programme aujourd'hui, la Ligue suisse de football qui prend des sanctions contre un président de club jugé fantasque. Au Burkina Faso, c'était il y a 30 ans, la mort du président Thomas Sankara, considéré comme le Che Guevara de l'Afrique. Au Canada, on verra que les pourparlers avancent difficilement avec les États-Unis sur l'accord de libre-échange nord-américain. À Bruxelles, le trafic était perturbé à l'entrée de la capitale pour cause de fermeture d'un viaduc qui présente quelques signes de faiblesse. Et puis on reviendra en France sur les grèves cette semaine dans la fonction publique. En Afrique, votre portrait de la semaine est collectif, Charlotte Hydrac, en rappelant que les jeunes filles africaines ont encore trop peu accès à l'éducation.
Oui, l'ONG One, cofondée par Bono, le leader de U2, publie un classement. 9 des 10 pays où l'accès des filles à l'école est le plus difficile sont sur le continent africain. Le Soudan du Sud est le plus mal classé, suivi de la Centrafrique. On ne compte là-bas qu'un enseignant pour 80 élèves, contre 1 pour 12 aux Pays-Bas, par exemple. Au Burkina Faso, 1% des filles seulement terminent ses études secondaires. Pourtant, l'ONG le rappelle, l'éducation des filles peut changer le monde.
En Suisse, Ron Oschuli, c'est la ministre de la Justice qui a retenu votre attention, elle qui a présenté cette semaine un projet de loi pour mieux protéger les victimes de violences domestiques.
Oui, au-delà des chiffres, les cas recensés de violences domestiques augmentent. En Suisse, il y a aussi son histoire personnelle. Simonetta Sommaruga avait travaillé pour une organisation de femmes battues dans sa jeunesse. L'expérience l'a marquée et elle propose aujourd'hui des mesures concrètes. Un système de bracelets électroniques qui permettra de mieux faire respecter les interdictions de périmètre prononcées contre un conjoint violent. Et puis la ministre veut lutter contre le phénomène des victimes qui retirent leurs plaintes suite à des pressions. Désormais, le retrait ne sera possible qu'après une audition avec les personnes.
En France, on reste sur le même thème et c'est un journal qui a fait polémique cette semaine, l'hebdomadaire Les Inrecuptibles, qui a mis à sa une le chanteur Bertrand Cantat pour la sortie de son dernier album. Un léger sourire sur le visage de Bertrand Cantat en couverture de cette une qui ne passe pas. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes l'a dit sans détour sur les réseaux sociaux. Au nom de quoi devons-nous supporter la promotion de celui qui a assassiné de ses poings l'actrice Marie Trintignant. Commentaire largement relayé par les associations contre les violences faites aux femmes. Celui qui a retenu votre attention cette semaine en Belgique, Anina Meus, c'est un infiltré, un homme qui s'est fait passer pour un autre. Pendant un an, on le croyait chauffeur de bus. En réalité, il était médecin.
Oui, et ce médecin voyait défiler dans son cabinet un nombre croissant de chauffeurs de bus souffrant de problèmes de dos, de burn-out, de dépression. Alors il a voulu comprendre et agir. Il a d'abord fait rapport à la société de transport en commun, mais le rapport est resté sans suite. Il s'est fait engager ensuite comme chauffeur et il a vite souffert des mêmes maux que ses anciens patients, maux de dos, grand découragement. Il épingle dans un livre les causes, matériel inadapté, horaire trop serré, manque de personnel, et il espère que son livre va améliorer les choses.
À Montréal, Raphaël Bouvier-Auclair, la libération d'un couple canado-américain qui était otage des talibans depuis 5 ans.
Oui, Joshua Boyle et son épouse Caitlin Coleman, qui elle est américaine, ont été capturés en 2012 pendant qu'ils faisaient du tourisme en Asie centrale. Ils étaient à ce moment en Afghanistan, mais c'est au Pakistan, non loin de la frontière afghane, qu'ils ont été libérés. L'opération de l'armée pakistanaise a été organisée à l'aide de renseignements obtenus par les autorités américaines. Le couple a eu 3 enfants pendant sa captivité.
En Afrique avec RFI, Charlotte Hydrac, le Burkina Faso commémore les 30 ans de l'assassinat de Thomas Sankara.
Surnommé le Che Guevara africain, le père de la révolution, président de la Haute Volta à l'époque, qu'il rebaptise Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il arrive au pouvoir à 33 ans, il casse les codes, il bouscule les traditions dans cette époque post-coloniale. Un personnage qui continue à fasciner bien au-delà des frontières du pays pour ses idées et aussi pour sa mort brutale. C'était le 15 octobre 1987 à Ouagadougou lors d'une réunion. Alouna Traoré était là.
On entend des tirs. Thomas Sankara se lève, il dit, ne bougez pas, c'est de moi qu'ils ont besoin. Il tire son survêtement vers le bas et les mains en l'air. Il sort de la salle et il est cueilli froidement abattu sur le perron donc, de la salle de réunion.
Alors qui a fait tuer Sankara? Suspect numéro 1, Blaise Compaoré, c'est lui qui reprend le pouvoir après sa mort. À l'époque, le capitaine Pierre Ouédraogo est secrétaire général national des comités de défense de la révolution.
À supposer qu'il ait été totalement surpris par cet événement, le minimum c'est que ce même conseil national de la révolution se réunisse pour voir quelles sont les mesures à prendre. Au lieu de ça, on entend à la radio, le gouvernement est démis, un langage qui ressemble plutôt au langage du coup d'État.
Blaise Compaoré, déchu fin 2014, vit aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire. Il a affirmé par le passé qu'il n'avait pas donné l'ordre d'assassiner Sankara. Après des années d'immobilisme, le dossier est en cours d'instruction devant la justice militaire burkinabé.
En Belgique, c'est un viaduc qui a fait la une cette semaine, un des principaux points d'entrée dans la capitale, Bruxelles. Mais à Nina Meus, l'édifice a dû fermer en urgence car il donnait des signes de faiblesse.
Oui, ce viaduc, c'est le passage obligé pour entrer dans Bruxelles depuis le sud du pays. 50 000 voitures empruntent ce viaduc chaque jour. Pour éviter le chaos dû à sa fermeture, tout le monde s'y est mis. 3 ministres de la mobilité, 3 sociétés de transport en commun. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que les derniers kilomètres d'autoroute avant le viaduc traversent les 3 régions du pays. Vous y ajoutez les chemins de fer, le ministre fédéral de la mobilité. Bref, tout le monde était sur le pont. Là, on a loué le parking d'un parc d'attractions en dehors de Bruxelles. Ici, on a inauguré un parking avant l'heure. Les pouvoirs publics ont fait comme jamais l'apologie des transports en commun et du covoiturage. Et finalement, toutes ces solutions proposées ont été très peu utilisées. Et en plus, le chaos redouté ne s'est pas produit. Le viaduc a même rouvert jeudi. Les analyses du béton se poursuivent, mais la stabilité a été jugée suffisante. En attendant, les débats s'animent, débats sur le manque d'investissement dans l'entretien des infrastructures à Bruxelles, débats aussi sur la congestion automobile. Le fragile viaduc a été conçu il y a une quarantaine d'années pour amener l'auto au cœur de la ville, une conception qui est aujourd'hui dépassée. Alors le viaduc disparaîtra un jour, c'est politiquement acquis, mais quand, ce n'est pas précisé.
La visite du Premier ministre canadien aux États-Unis, Justin Trudeau et Donald Trump ont fait le point sur la modernisation de l'accord de libre-échange nord-américain. Les pourparlers entre le Canada, les États-Unis et le Mexique avancent difficilement. Raphaël Bouvier-Auclair, le président Trump a même évoqué la fin de l'entente économique.
Le président avait déjà évoqué l'idée dans une entrevue. Il l'a répété dans le bureau ovale cette semaine devant le Premier ministre Trudeau. Il est possible que les négociations pour moderniser l'accord de libre-échange nord-américain ne fonctionnent pas. Et donc que les États-Unis décident de négocier un accord bilatéral, soit avec le Canada, soit avec le Mexique. Justin Trudeau, qui n'avait jamais évoqué la possibilité d'un échec des négociations jusqu'à présent, a reconnu devant les journalistes que c'était maintenant une possibilité. On l'écoute.
Nous allons continuer de travailler de façon sérieuse et diligente sur les négociations de l'ALENA. Mais en même temps, je pense que nous reconnaissons tous que l'imprévu est toujours possible et nous devons être prêts pour tout et nous sommes prêts pour tout. Nous allons toujours, quelle que soit la situation, pouvoir défendre les emplois, les intérêts canadiens, tout en s'assurant qu'on crée de la croissance économique chez nos voisins et nos partenaires aussi.
Le quatrième cycle de négociations sur la modernisation de l'accord a lieu en ce moment même dans la grande région de Washington.
Raphaël Bouvier-Auclair, d'autres différends opposent le Canada et les États-Unis sur le plan commercial.
Oui, par exemple, le département américain du commerce a récemment imposé des taxes de près de 300% pour des avions de l'entreprise canadienne Bombardier, le tout après une plainte de la compagnie américaine Boeing, une décision que dénonce le gouvernement canadien, ce que d'ailleurs a soulevé le premier ministre Trudeau quand il a rencontré le président Donald Trump. D'autres secteurs de l'économie comme le bois et le vin sont aussi litigieux. On sent une certaine tension ces temps-ci dans la relation économique entre le Canada et les États-Unis et c'est une grande relation économique. Chaque jour, c'est l'équivalent de 2,4 milliards de dollars canadiens en biens et services qui traversent la frontière entre les deux pays.
Les fonctionnaires étaient dans la rue cette semaine dans plusieurs villes de France. Grève chez les agents de la fonction publique pour dénoncer la diminution de leur pouvoir d'achat et leurs mauvaises conditions de travail. C'est d'ailleurs la première fois depuis 10 ans que l'ensemble des syndicats de la fonction publique ont appelé à la mobilisation, tous d'une même voix. Eh bien, ils reprochent au président Emmanuel Macron de faire une politique de droite, d'être le président des riches. Les professions du service public ont le sentiment de travailler toujours plus pour gagner finalement moins, compte tenu du gel de leur point d'indice. Certains n'ont toujours pas digéré les propos du chef de l'État. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait reproché à certains manifestants, je cite, de foutre le bordel.
Ça, c'est pas le bordel, ça, c'est des revendications légitimes, c'est l'expression du peuple. Lui, c'est le bordel parce qu'il remet en cause 150 ans d'acquis sociaux. Les gens n'ont pas voté pour ça.
Ça fait 8 ans que je travaille pour la fonction publique et aujourd'hui, je perçois 1323 euros net. On a vraiment des salaires qui sont au ras des pâquerettes, donc faut arrêter de nous faire passer pour des nantis.
Mais solidaire, je le suis. Moi, je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants, bien sûr. C'est dégueulasse de penser ça, les retraités. Les retraités, l'argent qu'ils ont, ils servent de cet argent pour aider les plus jeunes à s'en sortir. J'ai travaillé toute ma vie et je me fais plumer par M. Macron.
Voilà, les retraités dans la rue, lors de ces manifestations, commentaires de manifestants enregistrés dans les rues de Toulouse, dans le sud de la France. En Suisse, on avait déjà évoqué ici même le fantasque président du football club de Sion, Christian Constantin, lui qui après un match avait bousculé et giflé Rolf Fringer, ancien entraîneur et désormais consultant pour une chaîne de télévision. La Ligue suisse de football avait promis des sanctions, elles sont tombées cette semaine, Ron Oschuli.
100 000 francs d'amende, mais surtout 14 mois d'interdiction de stade. Il faut dire que le président du FC Sion n'a jamais regretté son geste. « Ça fait du bien », avait-il même lâché dans la foulée à la télévision en accusant le consultant de le critiquer trop souvent dans les médias. Alors, ça lui a peut-être fait du bien sur le moment, mais la sanction est là et elle est lourde.
Et quand on est interdit de stade aussi longtemps, c'est quand même difficile de rester président de club ?
Bon, Constantin n'est pas franchement homme à se laisser faire. Il va utiliser tous les moyens pour contester la sanction. Mais s'il échoue, va-t-il diriger le club à distance ou tout bonnement quitter la scène footballistique ? Ce scénario, personne en Suisse romande n'ose l'envisager pour l'instant. Scénario qui menacerait l'existence même du FC Sion. Ce club, son président en a fait sa chose et on voit mal qui pourrait reprendre la main.
Ron Oschuli, cette sanction, elle fait aussi des heureux.
Oui, c'est en tout cas le soupçon que nourrissent certains éditorialistes suisses romands. Est-ce que la Ligue majoritairement en mains alémaniques aurait profité de l'incident pour se débarrasser de ce président qui n'hésite jamais à dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas ? En clair, est-ce que la Ligue a sanctionné un acte ou un homme qui dérange ? Ça va faire couler encore passablement d'encre.
C'était l'actualité francophone. À la semaine prochaine.